Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience quand vous sortez dans la rue à Fribourg ou ailleurs, mais moi, il m'arrive parfois d'être inquiet. Inquiet non pas de l'insécurité qui régnerait aux abords de la Sarine ou sur le boulevard de Pérols, mais inquiet parce que la plupart des personnes que l'on croise dans tous ces lieux où l'on peut sortir, où l'on peut se promener, n'ont vraisemblablement pas entendu sérieusement parler du Christ. Alors oui, ces personnes vivent sans doute d'une manière digne du royaume de Dieu, peut-être plus digne que les chrétiens qui vont à la messe tous les dimanches pour certains, par certains aspects de leur vie, mais elles n'ont pas ou plus de contact explicite pour la plupart d'entre elles avec l'Évangile, la parole même du Christ. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, on pourrait se livrer à une réflexion peut-être sur la sécularisation, sur les structures intellectuelles et les évolutions du monde contemporain, et cela est certainement quelque chose d'important à faire. Mais cela nous fait aussi courir le risque de ne faire porter ce manque d'écho apparent de l'Évangile que sur ceux qui écoutent. Et ce matin, justement, je voudrais vous proposer d'emprunter un autre chemin. Un chemin qui implique ceux qui sont chargés d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire nous tous. En quoi le piètre écho que rencontre l'annonce de l'Évangile dans notre monde peut désigner des lieux de conversion pour nous tous, pour vous et moi? Alors je ne vous donnerai pas des recettes miracles, mais je crois que trois pistes sous forme d'interpellations un peu éparses peuvent être retenues de l'extrait de l'Évangile selon saint Marc qui vient d'être proclamé, trois pistes qui nous invitent à convertir notre regard sur nous-mêmes, sur l'Église qui est appelée à proclamer et sur le monde. Convertir notre regard sur nous-mêmes d'abord. Vous l'avez entendu comme moi, la pièce maîtresse, pourrait-on dire, de cet Évangile, c'est que Jésus envoie les 12 en mission. Le chrétien est celui qui est envoyé, qui reçoit une mission. Aujourd'hui, il nous est parfois difficile de prendre en compte cette dimension. Il y a là sans doute un élément saillant de notre culture contemporaine qui nous habite peut-être tous, malgré nous. Nous sommes en effet sans doute jaloux de notre autonomie ou de la volonté de nous définir nous-mêmes, de définir nous-mêmes ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Bien plus, nous sommes souvent très centrés sur une recherche de nous-mêmes, de nos racines, des profondeurs de notre psychisme et sur la maîtrise des différents éléments de notre vie. Et ce sont là des éléments évidemment très importants, ne me faites pas dire le contraire, des éléments capitaux même parfois à prendre en compte, mais des éléments qui ne peuvent être le point final de notre recherche et de notre vie. Parfois, après avoir tout décortiqué, analysé nos histoires, nos capacités, nous pouvons nous sentir peut-être plus solides, mais assez seul. Le Christ nous rappelle que l'homme ne se trouve que dans le don de lui-même, pas dans sa capacité à clôturer sa propriété privée et à poser sans fin les fondations de sa maison intérieure. C'est dans la mesure où nous acceptons de découvrir que nous avons une mission venue d'un autre, une mission qui doit se déployer dans toute notre vie, que nous découvrons profondément qui nous sommes, que notre vie prend une épaisseur insoupçonnée. Et tous, quel que soit notre âge, notre état de vie, quel que soit, pourrait-on dire, notre ancienneté dans l'Église, nous avons une mission que le Christ nous donne aujourd'hui, une mission qui donne épaisseur à toute notre existence. C'est là la première piste, la première hypothèse que je vous propose. Est-ce que notre difficulté à proclamer de manière convaincante l'Évangile ne vient pas d'une difficulté plus profonde à nous accepter personnellement comme dépositaires d'une mission, à concevoir notre vie comme un don que nous sommes appelés à faire aux autres. Mais on peut tirer de l'Évangile de ce dimanche une autre invitation à la conversion. Il s'agit cette fois-ci de convertir notre regard sur l'Église. Il est frappant que l'Évangile de ce dimanche, nous indique que le Christ a envoyé les 12 et les a envoyés deux par deux. Le message de la bonne nouvelle, il n'a pas été transmis à une personne singulière. Il a été transmis, il a retenti dans un groupe, dans le groupe des 12. La première mission de ce groupe, elle est marquée par la pluralité, le fait qu'ils sont envoyés deux par deux. Face à une multiplicité de courants d'idées, il serait tentant d'affirmer qu'il existe une voie monolithique pour annoncer l'Évangile. L'Église serait alors une sorte d'agrégation de courants dont le plus influent finirait par gagner pour imposer sa voie qui serait la bonne. Et je dois dire, quand on voit certaines discussions aujourd'hui entre chrétiens, mais c'était valable aussi hier, on n'est peut-être pas toujours très loin de ce mode-là, une sorte de ring où le plus fort cherche à écraser son adversaire au nom de l'Évangile. Pourtant, dès le début de la prédication évangélique, dès ce premier envoi en mission, le Christ nous rappelle que l'Église, quand elle proclame l'Évangile, si vous me passez l'expression, ne peut être une armée de clones. La force de son message est de pouvoir dire la grandeur d'une vérité portée dans une pluralité d'expressions. Dans la mesure où la vérité de l'Évangile est préservée dans son authenticité garantie par la tradition, l'autre, par sa différence, souligne la richesse du message du Christ et m'évite, moi qui le proclame, de m'en sentir possesseur. La pluralité est autrement dit un bon reflet de la grandeur de Dieu. Que l'on s'entende bien, je parle d'une juste pluralité ici, pas d'une pluralité qui consiste à s'ouvrir à tous les courants d'idées passagers, mais celle qui, forte de fondements partagés, permet à des disciples du Christ de vivre et de travailler dans sa vigne ensemble, malgré leurs différences d'idées, leurs différences d'abord des questions. Voilà une deuxième question, je crois, que soulève l'Évangile que nous avons entendu. En quoi notre proclamation de l'Évangile intègre-t-elle cette bonne pluralité? En quoi est-elle vécue comme un envoi deux par deux au service de la vérité de l'Évangile? Enfin, il me semble que l'Évangile de ce dimanche nous propose un troisième et dernier lieu de conversion. Il ne concerne pas, lui, le regard à porter sur nous-mêmes ou sur l'Église, mais sur ceux et celles à qui nous sommes envoyés. Quand on relit ce passage de l'Évangile, il est quand même frappant de voir l'extrême pauvreté que le Christ impose aux apôtres qu'il envoie en prédication. Vous l'avez entendu, je ne vais pas vous refaire la liste, mais en gros, il leur demande de partir à peu près sans rien. Cette pauvreté, c'est bien sûr la garantie d'une plus grande disponibilité pour pouvoir aller sur les routes, aller de village en village, de ville en ville, proclamer l'Évangile. Mais elle signifie aussi que le missionnaire de la bonne nouvelle accepte de se placer dans le besoin à l'égard de ceux à qui il annonce l'Évangile. Le missionnaire de l'Évangile doit signifier que ceux à qui il annonce la bonne nouvelle sont capables d'être instruments de la providence à laquelle il s'abandonne. Je crois que là pourrait être le cœur de cette troisième interpellation de l'Évangile de ce dimanche. Si notre vie, nos institutions sont organisées pour enseigner les seuls chrétiens convaincus et sont faites pour que tombe chaque mois le nécessaire, nous ne penserons pas ou nous ne penserons que de manière marginale à ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ, parce que c'est alors de la providence d'institutions bien organisées, et pas de Dieu, et pas de ceux auxquels nous sommes envoyés, que nous attendrons notre nécessaire. En quoi attendons-nous quelque chose de ceux auxquels nous sommes envoyés? Quelque chose qui est nécessaire à notre survie spirituelle, mais même à notre survie matérielle. Demandons, frères et sœurs, au Seigneur, dans cette Eucharistie, justement une grâce profonde de conversion pour être ses apôtres, pour que nous puissions découvrir d'abord la beauté de son appel, nous remettre devant le fait que nous sommes tous invités à remplir une mission, pour nous rappeler que nous avons à la remplir avec des frères et des sœurs que lui nous a donnés, que nous n'avons pas toujours choisis, et que nous devons attendre que sa providence passe par ceux auxquels il nous envoie. Alors je ne vous dis pas bonnes vacances, mais au travail. Amen.